quand on a pris l'habitude de considérer comme un bien absolu et clair de toute ombre, cette croissance au cours de laquelle la France a dévoré et digéré tant de territoires, comment une propagande inspirée, exactement de la même pensée et mettant seulement le nom de l'Europe à la place de celui de la France, ne s'infiltrerait-elle pas dans un coin de l'âme? Le patriotisme actuel consiste en une équation entre le bien absolu et une collectivité correspondant à un espace territorial, à savoir la France. Quiconque change dans sa pensée le terme territorial de l'équation et met à la place un terme plus petit comme la Bretagne ou plus grand comme l'Europe est regardé comme un traître. Pourquoi cela? C'est tout à fait arbitraire. L'habitude nous empêche de nous rendre compte à quel point c'est arbitraire. Mais au moment suprême, cet arbitraire donne prise aux fabricants intérieurs de sophismes. Les collaborateurs actuels ont à l'égard de l'Europe nouvelle que forgerait une victoire allemande l'attitude qu'on demande aux Provençaux, aux Bretons, aux Alsaciens, aux Franc-Comtois d'avoir quant au passé, à l'égard de la conquête de leur pays par le roi de France. Pourquoi la différence des époques changerait-elle le bien et le mal? On entendait couramment dire, entre 1918 et 1939, par les braves gens qui espéraient la paix, « Autrefois, il y avait la guerre entre provinces, puis elles se sont unies en formant des nations. De la même manière, les nations vont s'unir dans chaque continent, puis dans le monde entier, et ce sera la fin de toute guerre. » C'était un lieu commun très répandu. Il procédait de ce raisonnement par extrapolation qui a eu tant de puissance au XIXe siècle et encore au XXe. Les braves gens qui parlaient ainsi connaissaient en gros l'histoire de France, mais ils ne réfléchissaient pas au moment où il parlait, que l'unité nationale s'était accomplie presque exclusivement par les conquêtes les plus brutales. Mais s'ils s'en sont souvenus en 1939, ils se sont souvenus aussi que ces conquêtes leur étaient toujours apparues comme un bien. Quoi d'étonnant si une partie au moins de leur âme s'est mise à penser pour le progrès, pour l'accomplissement de l'histoire, il faut peut-être en passer par là. Ils ont pu se dire « La France a eu la victoire en 1918, elle n'a pu accomplir l'unité de l'Europe. Maintenant, l'Allemagne essaie de l'accomplir, ne la gênons pas. » Les cruautés du système allemand, il est vrai, auraient dû les arrêter. Mais ils pouvaient, soit n'en avoir pas entendu parler, soit supposer qu'elles étaient inventées par une propagande mensongère, soit les juger de peu d'importance comme étant infligées à des populations inférieures. Est-il plus difficile d'ignorer les cruautés des Allemands envers les Juifs ou les Tchèques que celles des Français envers les Annamites? Peggy disait heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Il doit s'en suivre que ceux qui les tuent injustement sont des malheureux. Si les soldats français de 1914 sont morts dans une juste guerre, alors c'est certainement aussi le cas, au moins au même degré, pour Vercingétorix. Si on pense ainsi, quel sentiment peut-on avoir envers l'homme qui l'a tenu pendant 6 ans enchaîné dans un cachot complètement noir, puis l'a exposé en spectacle aux Romains, puis l'a fait égorger? Mais Peggy était un fervent admirateur de l'Empire romain. Si on admire l'Empire romain, pourquoi en vouloir à l'Allemagne, qui essaie de le reconstituer sur un territoire plus vaste, avec des méthodes presque identiques? Cette contradiction n'a pas empêché Peggy de mourir en 1914. Mais cette haine, quoique non formulée, non reconnue, qui empêchait beaucoup de jeunes en 1940 d'aller au feu dans le même état d'esprit que Peggy. Ou la conquête est toujours un mal, ou elle est toujours un bien. Ou elle est tantôt un bien, tantôt un mal. Dans ce dernier cas, il faut un critérium pour la discrimination. Donner comme critérium que la conquête est un bien lorsqu'elle accroît la nation dont elle est membre par le hasard de la naissance, un mal lorsqu'elle la diminue, cela est tellement contraire à la raison que c'est seulement acceptable pour des gens qui, de parti pris et une fois pour toutes, ont chassé la raison, comme c'est le cas en Allemagne. Mais l'Allemagne peut le faire parce qu'elle vit d'une tradition romantique. La France ne le peut pas, car l'attachement à la raison fait partie de son patrimoine national. Une partie des Français peut se dire hostile au christianisme. Mais avant, comme après 1789, tous les mouvements de pensée qui ont eu lieu en France se sont réclamés de la raison. La France ne peut pas écarter la raison au nom de la patrie. C'est pourquoi la France se sent mal à l'aise dans son patriotisme, et cela, bien qu'elle-même, au XVIIe siècle, ait inventé le patriotisme moderne. Il ne faut pas croire que ce qu'on a nommé la vocation universelle de la France rend la conciliation entre le patriotisme et les valeurs universelles plus facile aux Français qu'à d'autres. C'est le contraire qui est vrai. La difficulté est plus grande pour les Français, parce qu'ils ne peuvent pas complètement réussir ni à supprimer le second terme de la contradiction, ni à séparer les deux termes par une cloison étanche. Ils trouvent la contradiction à l'intérieur de leur patriotisme même. Mais de ce fait, ils sont comme obligés d'inventer un patriotisme nouveau. S'ils le font, ils rempliront ce qui a été jusqu'à un certain point, dans le passé, la fonction de la France, à savoir de penser ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin en ce moment d'un patriotisme nouveau. Et c'est maintenant que cet effort d'invention doit être accompli, alors que le patriotisme est quelque chose qui fait couler le sang. Il ne faut pas attendre qu'il soit redevenu une chose dont on parle dans les salons, les académies et aux terrasses des cafés. Il est facile de dire, comme Lamartine, « Ma patrie est partout où rayonne la France. La vérité, c'est mon pays. » Malheureusement, cela n'aurait un sens que si « France et vérité » étaient des mots équivalents. Il est arrivé, il arrive, il arrivera que la France mente et soit injuste. Car la France n'est pas Dieu. Il s'en faut de beaucoup. Le Christ seul a pu dire « Je suis la vérité ». Cela n'est permis à rien d'autre sur terre, ni homme, ni collectivité, mais bien moins encore aux collectivités. Car il est possible qu'un homme parvienne à un degré de sainteté tel que ce ne soit plus lui, mais le Christ qui vive en lui. Au lieu qu'il n'y a pas de nation sainte. Il y a eu une nation jadis qui s'est crue sainte, et cela lui a très mal réussi. Et à ce sujet, il est bien étrange de penser que les pharisiens étaient les résistants dans cette nation, et les publicains, les collaborateurs, et de se rappeler quels étaient les rapports du Christ avec les uns et les autres. Cela semble obligé à penser que notre résistance serait une position spirituellement dangereuse, même spirituellement mauvaise, si parmi les mobiles qui l'animent, nous ne savons pas restreindre le mobile patriotique dans de justes limites. C'est ce danger même qu'expriment, dans le langage extrêmement vulgaire de notre époque, ceux qui, sincèrement ou non, disent craindre que ce mouvement ne tourne au fascisme. car le fascisme est toujours lié à une certaine variété du sentiment patriotique. La vocation universelle de la France ne peut pas, à moins de mensonges, être évoquée avec une fierté sans mélange. Si on ment, on la trahit dans les mots mêmes par lesquels on l'évoque. Si on se souvient de la vérité, la honte doit toujours se mêler à la fierté, car il y a quelque chose de gênant dans tous les exemples historiques qu'on peut en fournir. Au XIIIe siècle, la France a été un foyer pour toute la chrétienté. Mais c'est au début même de ce siècle qu'elle avait détruit pour toujours, au sud de la Loire, une civilisation naissante qui brillait déjà d'un grand éclat. Et c'est au cours de cette opération militaire, en liaison avec elle, qu'a été établie pour la première fois l'Inquisition. C'est là une souillure qui compte. Le XIIIe siècle est celui où le gothique s'est substitué au roman, la musique polyphonique au chant grégorien, et en théologie, les constructions tirées d'Aristote à l'inspiration platonicienne. Dès lors, on peut douter que l'influence française en ce siècle ait correspondu à un progrès. Au XVIIe siècle, la France a de nouveau rayonné sur l'Europe. Mais le prestige militaire lié à ce rayonnement a été obtenu par des méthodes inavouables, du moins si l'on aime la justice. Au reste, autant la conception classique française a produit des œuvres merveilleuses en langue française, autant elle a exercé une influence destructrice à l'étranger. En 1789, la France est devenue l'espoir des peuples. Mais 3 années plus tard, elle est partie en guerre, et dès les premières victoires, elle a substitué aux expéditions de délivrance des expéditions de conquête. Sans l'Angleterre, la Russie et l'Espagne, elle aurait imposé à l'Europe une unité peut-être à peine moins étouffante que celle qui est aujourd'hui promise par l'Allemagne. Dans la deuxième partie du siècle dernier, quand on s'est aperçu que l'Europe n'est pas le monde, et qu'il y a plusieurs continents sur cette planète, la France a été reprise d'aspirations à un rôle universel. Mais elle n'a abouti qu'à fabriquer un empire colonial imité de celui des Anglais. Et dans le cœur d'un certain nombre d'hommes de couleur, son nom est maintenant lié à des sentiments auxquels il est intolérable de penser. Ainsi, la contradiction inhérente au patriotisme français se retrouve aussi le long de l'histoire de France. Il ne faut pas en conclure que la France, ayant vécu si longtemps avec cette contradiction, peut continuer. D'abord, si on reconnaît une contradiction, il est honteux de la supporter. Puis, en fait, la France a failli mourir d'une crise du patriotisme français. Tout porte à croire qu'elle serait morte si le patriotisme anglais n'était de qualité heureusement plus solide. Mais on ne peut pas le transporter chez nous. C'est le nôtre qu'il faut refaire. Il est encore à refaire. Il donne de nouveau des signes de vitalité parce que les soldats allemands sont chez nous, des agents de propagande incomparables pour le patriotisme français. Mais ils n'y seront pas toujours. Il y a là une responsabilité terrible, car il s'agit de ce qu'on appelle refaire une âme au pays. Et il y a une si forte tentation de la refaire à coups de mensonges ou de vérités partielles qu'il faut plus que de l'héroïsme pour s'attacher à la vérité. La crise du patriotisme a été double. En se servant du vocabulaire politique, on peut dire qu'il y a eu une crise à gauche et une crise à droite. À droite, dans la jeunesse bourgeoise, la coupure entre le patriotisme et la morale, jointe à d'autres causes, avait complètement discrédité toute moralité. Mais le patriotisme avait à peine davantage de prestige. L'esprit exprimé par les mots « politique d'abord, s'était étendue beaucoup plus loin que l'influence même de Maurras. Or, ces mots expriment une absurdité, car la politique n'est qu'une technique, un recueil de procédés. C'est comme si l'on disait « mécanique d'abord ». La question qui se pose immédiatement est « politique en vue de quoi ?» Richelieu répondrait « pour la grandeur de l'État ». Et pourquoi pour ce but et non pour un autre ? À cette question, il n'y a aucune réponse. C'est la question qu'il ne faut pas poser. La politique, dite réaliste, transmise de Richelieu à Maurras non sans avoir été endommagée en chemin, n'a de sens que si cette question n'est pas posée. Il y a une condition simple pour qu'elle ne le soit pas. Quand le mendiant disait à Talleyrand « Monseigneur, il faut bien que je vive », Talleyrand répondait « Je n'en vois pas la nécessité. » Mais le mendiant, lui, en voyait très bien la nécessité. De même, Louis XIV voyait très bien la nécessité que l'État fût servi avec un dévouement total, parce que l'État, c'était lui. Richelieu ne pensait en être que le premier serviteur. Néanmoins, en un sens, il le possédait, et pour cette raison, s'identifiait avec lui. La conception politique de Richelieu n'a de sens que pour ceux qui, à titre soit individuel, soit collectif, se sentent ou bien les maîtres de leur pays, ou bien capables de le devenir. La jeunesse bourgeoise française ne pouvait plus, depuis 1924, avoir le sentiment que la France était son domaine. Les ouvriers faisaient bien trop de bruit. D'autre part, elle souffrait de cet épuisement mystérieux qui s'est abattu sur la France après 1918 et dont les causes sont sans doute, en grande partie, physiques. Qu'il faille incriminer l'alcoolisme, l'état nerveux des parents quand ils ont mis au monde et élevé cette jeunesse, ou autre chose, la jeunesse française donne, depuis longtemps, des signes certains de fatigue. La jeunesse allemande, même en 1932, alors que les pouvoirs publics ne s'occupaient pas d'elle, était d'une vitalité incomparablement plus grande, malgré les privations très dures et très longues qu'elle avait souffertes. Cette fatigue empêchait que la jeunesse bourgeoise de France se sentît en état de devenir maîtresse du pays. Dès lors, à la question « politique en vue de quoi ?», la réponse qui s'imposait était « en vue d'être installée par d'autres au pouvoir dans ce pays ». Par d'autres, c'est-à-dire par l'étranger. Rien dans le système moral de ces jeunes gens ne pouvait empêcher ce désir. Le choc de 1936 le fit pénétrer en eux à une profondeur irréparable. On ne leur avait fait aucun mal, mais ils avaient eu peur. Ils avaient été humiliés et, crime impardonnable à leurs yeux, humiliés par ceux qu'ils regardaient comme leurs inférieurs. En 1937, la presse italienne citait un article paru dans une revue française d'étudiants où une jeune Française souhaitait que Mussolini trouvât, parmi ses nombreux soucis, le loisir de venir remettre l'ordre en France. Si peu sympathiques que soient ces milieux, si criminels qu'ait été par la suite leur attitude, ce sont des êtres humains, et des êtres humains malheureux. Le problème à leur égard se pose en ces termes. Comment les réconcilier avec la France sans la livrer entre leurs mains ?